côté une exploitation minière responsable qui offre des avantages socio-économiques. Et l'homme d'affaires de dénoncer des groupes connus dans la région pour diffuser des informations erronées sur les impacts de projets de développement comme le sien.
Christophe Paget.
Radio G. www.radio-g.fr.
C'est bien la première fois que j'entends ma voix en dehors de moi, dans la radio. Je ne me reconnais pas, je ne sais pas si j'aime ça, mais regarde tout ce qu'on peut faire dans la radio.
Bonjour à tous, vous êtes bien sur 101.5 FM à l'écoute de Radio G. Bienvenue dans l'émission J'entends des voix, une émission à plusieurs voix qui donne à entendre ce qui s'écrit, ce qui se dit, ce qui se lit et peut-être aussi ce qui se chante. J'entends des voix, c'est une demi-heure, deux fois par mois, le jeudi à 9h10 en semaine impaire sur Radio G 101.5 FM et en podcast sur radio-g.fr. J'entends des voix, c'est une thématique à travers des textes qui se suivent et ne se ressemblent pas, accompagnés d'une sélection musicale. Pour ces 30 minutes à passer ensemble, il y a Anne, Pascal et Valérie. Alors, cette nouvelle émission est consacrée à Virginie Despentes. Faut-il encore présenter Virginie Despentes? Sa langue transgressive, son humour, son ironie mordante, son souffle énergisant. Commençons donc par une lecture à deux voix de Bad Lieutenant, texte extrait de King Kong Theory, un plaidoyer qui vous explose au visage. J'écris de chez les moches, pour les moches, les vieilles, les camionneuses, les frigides, les mal baisés, les imbaisables, les hystériques, les tarés, toutes les exclues du grand marché à la bonne meuf. Et je commence par là pour que les choses soient claires. Je ne m'excuse de rien, je ne viens pas me plaindre. Je n'échangerai pas ma place contre aucune autre. Parce qu'être Virginie Despentes me semble être une affaire plus intéressante à mener que n'importe quelle autre affaire.
Je trouve ça formidable qu'il y ait aussi des femmes qui aiment séduire, qui sachent séduire, d'autres se faire épouser, des qui sentent le sexe et d'autres le gâteau du goûter des enfants qui sortent de l'école. Formidable qu'il y en ait de très douces, d'autres épanouies dans leur féminité, qu'il y en ait de jeunes, très belles, d'autres coquettes et rayonnantes. Franchement, je suis bien contente pour toutes celles à qui les choses telles qu'elles sont conviennent. C'est dit sans la moindre ironie. Il se trouve simplement que je ne fais pas partie de celles-là. Bien sûr que je n'écrirais pas ce que j'écris si j'étais belle, belle à changer l'attitude de tous les hommes que je croise. C'est en tant que prolote de la féminité que je parle, que j'ai parlé hier et que je recommence aujourd'hui.
Je suis plutôt King Kong que Kate Moss comme fille. Je suis ce genre de femme qu'on n'épouse pas, avec qui on ne fait pas d'enfant. Je parle de ma place de femme, toujours trop tout ce qu'elle est, trop agressive, trop bruyante, trop grosse, trop brutale, trop hirsute, toujours trop virile, me dit-on. Ce sont pourtant mes qualités viriles qui font de moi autre chose qu'un cas social parmi les autres. Tout ce que j'aime de ma vie, tout ce qui m'a sauvée, je le dois à ma virilité. C'est donc ici, en tant que femme inapte à attirer l'attention masculine, à satisfaire le désir masculin et à me satisfaire d'une place à l'ombre que j'écris. C'est d'ici que j'écris, en tant que femme non séduisante, mais ambitieuse, attirée par l'argent que je gagne moi-même, attirée par le pouvoir de faire et de refuser, attirée par la ville plutôt que par l'intérieur, toujours excitée par les expériences et incapable de me satisfaire du récit qu'on m'en fera. Je m'en tape de mettre la gaule à des hommes qui ne me font pas rêver.
Je me suis toujours sentie moche. Je m'en accommode d'autant mieux que ça m'a sauvée d'une vie de merde à me coltiner des mecs gentils qui ne m'auraient jamais emmenée plus loin que la ligne bleue des Vosges. Je suis contente de moi comme ça, plus désirante que désirable. J'écris donc d'ici, de chez les invendus, les tordus, celles qui ont le crâne rasé, celles qui ne savent pas s'habiller, celles qui ont peur de puer, celles qui ont des chicots pourris, celles qui ne savent pas s'y prendre, celles à qui les hommes ne font pas de cadeaux, celles qui baiseraient avec n'importe qui voulant bien d'elles, les grosses putes, les petites salopes, les femmes à chat toujours sèches, celles qui ont des gros bides, celles qui voudraient être des hommes, celles qui se prennent pour des hommes, celles qui rêvent de faire hardeuse, celles qui n'en ont rien à foutre des mecs, mais que leurs copines intéressent, celles qui ont un gros cul, celles qui ont les poils drus et bien noirs et qui ne font pas se faire épiler, les femmes brutales, bruyantes, celles qui cassent tout sur leur passage, celles qui n'aiment pas les parfumeries, celles qui se mettent du rouge trop rouge, celles qui ont trop mal foutu, celles qui sont trop mal foutues pour pouvoir se saper comme des chaudasses mais qui en crèvent d'envie, celles qui veulent porter des fringues d'hommes et la barbe dans la rue, celles qui veulent tout montrer, celles qui sont pudiques par complexe, celles qui ne savent pas dire non, celles qu'on enferme pour les mater, celles qui font peur, celles qui font pitié, celles qui ne font pas envie, celles qui ont la peau flasque, des rides de plein la face, celles qui rêvent de se faire lifter, liposucer, péter le nez pour le refaire, mais qui n'ont pas l'argent pour le faire, celles qui ne ressemblent plus à rien, celles qui ne comptent que sur elles-mêmes pour se protéger, celles qui ne savent pas être rassurantes, celles qui s'en foutent de leurs enfants, celles qui aiment boire jusqu'à se vautrer par terre dans les bars, celles qui ne savent pas se tenir, aussi bien et dans la foulée que pour les hommes qui n'ont pas envie d'être protecteurs, ceux qui voudraient l'être mais ne savent pas s'y prendre, ceux qui ne savent pas se battre, ceux qui chialent volontiers, ceux qui ne sont pas ambitieux, ni compétitifs, ni bien membrés, ni agressifs, ceux qui sont craintifs, timides, vulnérables, ceux qui préféreraient s'occuper de la maison plutôt que d'aller travailler, ceux qui sont délicats, chauves, trop pauvres pour plaire, ceux qui ont envie de se faire mettre, ceux qui ne veulent pas qu'on compte sur eux, ceux qui ont peur tout seuls le soir.
Parce que l'idéal de la femme blanche, séduisante mais pas pute, bien mariée mais pas effacée, travailleuse mais sans trop réussir, pour ne pas écraser son homme, mince mais pas névrosée par la nourriture, restant indéfiniment jeune sans se faire défigurer par les chirurgiens de l'esthétique, maman épanouie mais pas accaparée par les couches et les devoirs d'école, bonne maîtresse de maison mais pas boniche traditionnelle, cultivée mais moins qu'un homme, cette femme blanche, heureuse qu'on nous brandit tout le temps sous le nez, celle à laquelle on devrait faire l'effort de ressembler, à part qu'elle a l'air de beaucoup s'emmerder pour pas grand-chose, de toute façon, je ne l'ai jamais croisée nulle part. Je crois bien qu'elle n'existe pas. Elle attend patiemment qu'il respire plus régulièrement, rassemble ses affaires à tâtons, puis sort s'habiller à la hâte dans le couloir obscur. Ça lui rappelle quand, adolescente, elle faisait le mur. Fébrile appréhension de se faire surprendre, inouï soulagement une fois le seuil franchi. Dehors, l'air se fait plus respirable. Comme d'habitude, le bruit au Walkman lui donne la BO adéquate. Elle marche au bord d'une nationale, croise d'immenses panneaux publicitaires où des femmes exhibent leur poitrine. Elle s'examine attentivement l'âme, la retourne sous toutes les coutures. À la recherche d'une marque de regret, de peine de les quitter sans même dire au revoir, mais elle n'y trouve qu'un infini plaisir à marcher dans la nuit. Délivrance presque charnelle, c'est à la tiédeur qu'elle échappe. Elle s'en fout d'être lâche et de fuir les discussions. Elle marche droit devant, en attendant de reconnaître l'endroit. Il lui est venu une incommensurable force. Elle est pleine de certitude et de calme. Le jour se lève, il fait déjà chaud. Elle marche face au soleil, montrant. Elle entre dans la ville. Des images lui reviennent, des bribes de conversation. La mémoire est une drôle de chose qui redistribue les données sans doute hiérarchiques ou chronologiques. Le corps embrasé dans les sous-bois devient une image de fête. C'est l'éclairage qui a changé, c'est un jour de félicité. Rencontrer sa pareille, toutes ces élucubrations sur l'âme sœur lui semblent tellement suspectes. Elles n'ont été regardantes sur rien. Elle croise des gens qui partent travailler. N'importe lequel d'entre eux peut la reconnaître et la désigner en hurlant. Elle n'est pas tendue, mais très attentive, prête à se brûler la cervelle au moindre fait suspect. Elle marche, les doigts noués autour de la crosse, comme si elle donnait la main à un amant très attentionné. Ils ne la rattraperont pas. Elle ne se sent ni fissurée, ni hésitante. Elle marche droit devant. Arrivée dans le centre-ville, elle a marché longtemps, vu le nombre de morceaux qui ont défilé au Walkman. Elle achète une bouteille de whisky et du chocolat. Le soleil est tout en haut et brûle du mieux qu'il peut. Elle s'installe sur un banc dans un square plein de verdure et de jeux pour enfants. Burn it clean, les yeux mi-clos, boit l'alcool tiède par petites gorgées gourmandes. Elle se laisse écraser par la chaleur, le soleil généreux pour la dernière des putes. Du bout des doigts, elle caresse la crosse et branle le canon. Caresse le métal comme pour le faire durcir et se tendre, qu'il se décharge dans sa bouche comme du foutre de plomb. Elle est prête, étonnée d'être aussi paisible. Elle sort son flingue de sa poche, elle est gorgée de soleil. C'est à Manu qu'elle va penser quand le coup va partir. Elles resteront ensemble. Elle est à plat ventre par terre, les bras solidement maintenus vers l'arrière par un homme à genoux sur elle, désarmée, encerclée. Ils ont surgi sans qu'elle ait le temps de comprendre quoi que ce soit. Certains sont en civil et d'autres en uniforme. À quelques pas de là s'élève la clameur des passants rassemblés qui comprennent qui elle est et se félicitent de l'avoir capturée. Elle sent son sang dans sa bouche. Elle s'est mordu la langue en tombant. C'est chose qui devait arriver. On croit pouvoir y échapper.
Pascal nous a lu la fin de Baise-moi, premier roman de Virginie Despentes, paru en 1994 chez Florent Massot.
Dans la rue, l'évocation des objets qu'il a laissés dans l'appartement alors qu'il aurait dû les prendre décroche des jets de pierre dans sa poitrine. Il touche du bout des doigts le papier administratif plié en quatre dans sa poche arrière. Ses mains tremblent, elles ne lui obéissent plus. Il faut qu'il se pose, qu'il réfléchisse au calme et qu'il trouve comment arranger tout ça. 1 000 euros, c'est beaucoup, mais ça se trouve. Ses affaires ne sont pas perdues. Il y a davantage de choses auxquelles il tient que ce à quoi il s'attendait. La montre que Jean-Noël lui a offerte, les tests pressing du premier album des Tugs, qu'il a récupéré par hasard quand le label manager de Gougnaf Movement a squatté chez lui quelque temps, la flasque Motorhead qu'Ev lui avait ramenée d'une visite virée à Londres, le tirage original d'une photo de Gélio Biafra que Carole avait prise à New York et le Selby dédicacé. La menace d'une explosion planait sur lui depuis si longtemps qu'il avait fini par croire que c'était la vieille sirène d'une guerre qu'il gagnerait toujours. Si Alexandre était encore là, Vernon saurait quoi faire. Il irait en bas de chez lui et remuerait ciel et terre pour le retrouver. Il n'aurait aucune honte à le faire. Son vieux pote aurait été heureux de le sortir de là. C'est à ça que Vernon lui servait sur la fin. Donner à son argent quelques valeurs réelles.
Ce matin-là, j'arrive en retard. Agathe, la jeune standardiste, tapote sa montre du doigt en fronçant les sourcils. Elle porte des collants fluo jaunes et des boucles d'oreilles roses en forme de cœur. Elle a facile 10 ans de moins que moi. Je devrais ignorer son petit soupir contrarié quand elle trouve que je prends trop de temps à enlever mon manteau, au lieu de quoi je bafouille une excuse incompréhensible et je file frapper à la porte du chef. De l'intérieur de son bureau s'échappent de longs cris rauques. Je recule d'un pas, effrayée. J'interroge Agathe du regard. Elle grimace et chuchote. « C'est Madame Galtan. Elle vous attendait devant l'entrée, avant l'ouverture ce matin. » Dessenet se fait agonir depuis 20 minutes. Entre vite, ça va la calmer. Je suis tentée de tourner les talons et d'évaler les escaliers sans un mot d'explication. Mais je frappe à la porte et on m'entend. Pour une fois, Dessenet n'a pas besoin de jeter un œil au dossier éparpillé sur son bureau pour se souvenir de mon nom. Lucie Toledo, que vous avez déjà rencontrée, elle était justement... Il n'a pas l'occasion d'aller au bout de sa phrase, la cliente l'interrompt en vociférant. Mais t'étais où, connasse ? Elle me laisse 2 secondes pour encaisser le coup de poing verbal, puis enchaîne en augmentant le volume. Tu sais combien je te paye pour que tu ne la perdes pas de vue ? Et elle disparaît dans le métro. Dans le métro, idiote. Tu as quand même réussi l'exploit de la perdre dans le métro. Et tu attends une demi-journée avant de me laisser un message pour me prévenir. L'école a prévenu avant toi. Ça te semble normal? Tu as l'impression d'avoir correctement fait ton travail, peut-être? Cette femme est habitée par le diable. Je ne dois pas être assez réactive à son goût. Elle se désintéresse de mon cas et se retourne vers Dessenet. Et pourquoi cette gourde suivait Valentine? Vous n'avez rien de plus brillant en stock? Le chef n'emmène pas large. Acculée par les circonstances, il me couvre. Je vous assure que Lucie est l'un de nos meilleurs éléments. Elle a une grande expérience du terrain et... Ça vous semble normal de perdre une gamine de 15 ans sur le trajet qu'elle effectue chaque matin ? J'avais rencontré Jacqueline Galtan pour l'ouverture du dossier 10 jours auparavant. Carré blond, court, impeccable. Talons aiguilles à semelles rouges. C'était une femme froide, bien rafistolée pour son âge, très précise dans ses indications. Je n'avais pas deviné qu'à la moindre contrariété, elle serait sujette au syndrome de la Tourette. Sous l'effet de la rage, les rides de son front se creusent. Le botox a perdu la partie. Un peu d'écume blanche perle aux commissures de ses lèvres. Elle tourne en rond dans le bureau. Ses épaules étroites sont secouées de spasmes. « Vous avez fait comment, bougre d'imbécile, pour la perdre dans le métro ?»
Après la lecture d'un extrait du premier tome de Vernon Subutex, sorti en 2015 chez Grasset, Valérie nous a lu le début du roman Apocalypse Bébé, sorti en 2010, toujours chez Grasset.
Qui se respecte aura reconnu Tugs. Nous avons choisi cette mousse musicale car figurez-vous que Virginie Despentes fait référence au groupe alternatif Angevin dans l'extrait précédent de Vernon Subutex.
Deb allait avoir 27 ans. Elle avait déjà eu plusieurs corps. Elle avait été une petite fille lambda, sans souvenir marquant, jusqu'à ses 10 ans. Puis elle s'était enveloppée. Elle avait commencé par être grassouillette, mais qui pouvait encore aller à la piscine sans qu'on lui fasse des réflexions ? Elle se sentait grosse, comme le sont certaines petites filles, épouvantée de sa propre monstruosité, mais encore seule à l'apercevoir. Puis, elle avait basculé, elle était devenue énorme à la puberté. Ça avait duré 4 ans, pendant lesquels chaque journée avait été difficile. On peut tout se permettre avec les gros. Leur faire la morale à la cantine, les insulter s'ils grignotent dans la rue, leur donner des surnoms atroces, se foutre d'eux s'ils font du vélo, les tenir à l'écart... leur donner des conseils de régime, leur dire de se taire s'ils prennent la parole, éclater de rire s'ils avouent qu'ils aimeraient plaire à quelqu'un, les regarder en faisant la grimace quand ils arrivent quelque part. On peut les bousculer, les pincer, leur pincer le bide ou leur mettre des coups de pied, personne n'interviendra. C'est peut-être à cette époque qu'elle a appris à renoncer à son genre. Mâle ou femelle, les gros sont soumis à une exclusion similaire. On a le droit de les mépriser. Et s'ils se plaignent des traitements qu'on leur inflige, au fond, tout le monde pense la même chose. Mange moins, gros sac, tu pourras t'intégrer. Deb était dans le sucre comme elle serait dans la coke quelques années plus tard, à fond. Ne pensant qu'à ça. Les aliments sucrés l'appelaient pendant la nuit. Elle le disait sur un mode comique, mais c'était tout à fait ça. Des placards de la cuisine s'élevaient des mélopées ensorcelantes. Il fallait qu'elle se lève et qu'elle se gave. C'était une impulsion souveraine, pas une décision. Elle rentrait chez elle le plus vite possible, il n'y avait personne, ses parents travaillaient et elle pensait qu'elle était un très gros panda mignon enfoncé dans le canapé à grignoter. Elle regardait la télé sans arrêt, elle se faisait offrir des coffrets de séries et elle s'enfermait dedans. Ally McBeal, Sex and the City, Buffy étaient davantage sa réalité que le collège. Une fois assise devant son écran, elle était une mince américaine élégante. À 17 ans, une diététicienne au caractère fondamentalement dictatorial l'avait propulsée sur les rails d'un régime draconien. Comme quelqu'un qui serait resté 5 ans sur le quai de gare et va savoir pourquoi cette fois-là ça avait fonctionné. Ce train-là, elle avait réussi à le prendre et en 6 mois, elle était devenue quelqu'un d'autre. À cet âge-là, on fond comme on a explosé en une saison. Nouveau changement de corps. Elle était entrée en surpoids alors qu'elle était encore une petite fille. De ce bloc de graisse émergeait une jeune femme, plutôt jolie, et elle regardait les photos dans les magazines et en se comparant, Deb comprenait qu'elle était une belle plante. Elle avait de belles épaules, les seins hauts et bien dessinés, la taille marquée, les jambes longues, les chevilles fines. Elle avait évité les miroirs pendant 4 ans, elle pouvait à présent rester devant pendant des heures à se découvrir, mais sans se reconnaître pour autant. La fille dans le reflet n'avait jamais coïncidé avec Deb. En fait, tout au long de sa vie, jamais son reflet ne l'avait correctement représenté. Un corps lui faisait face dans le miroir et qu'elle soit obèse, moustachue ou bombasse, c'était une étrangère. Elle avait perdu 18 kilos en 6 mois. Ça l'avait rendue furieuse que les gens changent autant d'attitude envers elle, à ce point, selon les kilos qu'elle mettait ou pas autour de son squelette. Grosse, elle voulait bien prendre la place de la pauvre fille, du bouc émissaire, de celle qui prend des tartes, celle qu'on humilie pour faire rire les autres, celle vers laquelle on se tourne si par malheur il y a une mauvaise odeur dans la rame de métro. Ok, elle était celle-là, la grosse. Elle était en accord avec ça, endosser le rôle de celle qui doit avoir de l'humour et s'intéresser aux histoires des autres. Elle s'était habituée. Mais que ça puisse changer du tout au tout, en si peu de temps, l'avait fait exploser de rage. Alors comme ça, elle pouvait être traitée comme une jolie fille. Mais bande de connards, choisir ses vêtements avait été un supplice. Elle devait presque s'excuser auprès des vendeuses d'oser demander si elles avaient sa taille. Et à présent, il suffisait de tendre le bras et enfiler et ça lui allait bien. C'était pareil avec les gens. Elle avait tellement l'habitude d'être plus aimable qu'une autre pour éviter les coups et d'être mise à l'index. Elle était plus sociable qu'une vendeuse de parfums. Tout avait changé. Il suffisait qu'elle arrive quelque part et on lui léchait le cul parce qu'elle portait une jolie robe, parce qu'elle était rentrée dans le rang.
Comme d'habitude, en fin d'après-midi, la place est noire de monde. Patrice ne boude pas son plaisir. Ces dernières années, il se sentait comme un clou qu'un marteau enragé cognait jour après jour. Les luttes de gauche, c'était terminé. Au moindre article d'économiste suggérant que la dette était une arnaque, à la moindre critique s'opposant à l'assimilation des réfugiés à des terroristes violeurs en puissance, à la manifestation contre la destruction des retraites ou du service public, les médias hurlaient à l'anachronisme, à la démagogie, au passéisme, à l'irréalisme et brandissaient le spectre de l'islamo-gauchisme. C'est une gauche d'État imprégnée d'idéologie fasciste, d'enfants issus de l'extrême droite reconvertis au socialisme par opportunisme, de ministres fréquentant le GUD sans qu'on voit où serait le problème, mais qu'on ne verra jamais avec un syndicaliste. Une gauche qui ne veut plus entendre parler de régulation des marchés et qui n'a qu'une idée en tête, séduire l'électorat d'extrême droite. C'est une gauche de pouvoir, élue sur un programme de centre-gauche qui s'est empressé de prolonger la politique de ses prédécesseurs, respectant les consignes de dérégulation à la virgule près. C'est une gauche au pouvoir qui désire coûte que coûte en finir avec toute idée de gauche. Les journaux ne titrent que sur les casseurs de la République et l'incapacité des Nuits Debout à tenir leurs troupes. Les journalistes savent de quoi ils parlent. Pour être tenus, ils sont tenus. Trois grandes fortunes contrôlent l'ensemble de la presse et nul écrit dans leurs colonnes sans défendre leurs intérêts. Patrice en a fait de la manifestation. Il n'a jamais connu une répression policière aussi démesurée, aussi délirante. Mais de cela, les grands journaux ne font pas état. Il y a eu un effet de harassement. À force de l'entendre répéter jusqu'à la nausée, il n'y a qu'une seule réalité possible, c'est celle des grands patrons aux mains entièrement libres. Il n'y a qu'un seul avenir envisageable, c'est plus de libéralisme et toujours plus de libéralisme. Il n'y a qu'une seule interprétation des faits qui soit valable, et c'est que le marché ne peut subir aucune contrainte. Rien ne doit empêcher les plus riches de confisquer toujours davantage. Rien ne doit empêcher les puissants de traiter les dominés comme des esclaves. Il faut liquider l'héritage du Front populaire, des grèves des années 70. Il faut en finir avec l'égalité. La liberté de consommer suffira. C'est déjà beaucoup. Il ne voit pas de quoi se plaint le peuple. Privation des bénéfices, socialisation des pertes. On démolit le pays pour le mettre au service des banques. Et le plus troublant de l'histoire, c'est qu'on a enfoncé dans la tête de chaque individu qu'on ne pouvait pas faire autrement. Et la place de la République permet à tous les patrices de la région parisienne de dire « On n'est pas d'accord avec cette fiction. C'est dérisoire et c'est pourtant crucial. » Les puissants le savent, qui font ceux qui n'entendent pas. Ils disent casseurs, ils disent antisémites, ils disent irréalistes. Mais il reste un peuple de France, d'Espagne, de Grèce, du Portugal, d'Islande et même d'Allemagne, puisqu'on n'en parle jamais. Il reste un peuple qui ne croit pas que laisser le pouvoir aux mains de psychopathes ignares mais bien nés soit la seule conduite réaliste. Des gens comme lui qui se disent que si l'on doit hiérarchiser les problèmes, l'aide consentie aux banques après la crise boursière de 2008 a des conséquences plus graves et plus difficiles à gérer que l'arrivée de quelques milliers de réfugiés à répartir dans le pays. C'est une ambiance de kermesse. Il y a des stands partout. La France ne peut pas s'empêcher. Il faut qu'elle s'organise. Des tables de presse, des points wifi, des livres à échanger, des forums, des stands. Les gens s'éparpillent, se répartissent, s'assoient par terre ou se promènent. C'est des conneries de prétendre qu'il n'y a que des bobos. Il y a de tout dans cette foule. Un bric-à-brac d'individus dont le seul point commun est de ne pas se résigner à attendre qu'on les désbalise sans opposer de résistance.
Un extrait du premier tome de Vernon Subutex sorti en 2015 chez Grasset. C'est tout de même assez épatant et pour le moins moderne, un dominant qui vient chialer que le dominé n'y met pas assez du sien. Il y a une fierté de domestique à devoir avancer entravé, comme si c'était utile, agréable ou sexy. Il faut minorer sa puissance, jamais valoriser chez une femme. Compétente veut dire encore masculine. C'est en fait un moyen de s'excuser, de rassurer les hommes. J'ai les moyens de vivre autre chose, mais je décide de vivre l'aliénation via les stratégies de séduction les plus efficaces. Les femmes adressent aux hommes un message rassurant : n'ayez pas peur de nous. Soyons libérés, mais pas trop. Nous voulons jouer le jeu. Nous ne voulons pas des pouvoirs liés au phallus. Nous ne voulons faire peur à personne. Les femmes se mettent en position de séductrices, réintégrant leur rôle de façon d'autant plus ostentatoire qu'elles savent que, dans le fond, il ne s'agit plus que d'un simulacre. Depuis toujours, sortir de la cage a été accompagné de sanctions brutales. C'est l'idée que notre indépendance est néfaste, qui est incrustée en nous jusqu'à l'os. La révolution féministe des années 70 n'a donné lieu à aucune réorganisation concernant la garde des enfants. Nous manquons d'assurance quant à notre légitimité à investir le politique. Délaisser le terrain politique comme nous l'avons fait marque nos propres réticences à l'émancipation. Il faut oublier d'être agréable, serviable. Il faut s'autoriser à dominer l'autre publiquement. Quand Sarkozy réclame la police dans l'école ou Royal l'armée dans les quartiers, ça n'est pas une figure virile de la loi qu'ils introduisent chez l'enfant, mais la prolongation du pouvoir absolu de la mère. Nous régressions vers des stades d'organisation collective infantilisant l'individu. Les corps des femmes n'appartiennent aux hommes qu'en contrepartie de ce que le corps des hommes appartient à la production, en temps de paix, à l'État, en temps de guerre. Car la virilité traditionnelle est une entreprise aussi mutilatrice que l'assignement à la virilité. Pourquoi les mères encouragent-elles les petits garçons à faire du bruit ? Alors qu'elles encouragent les filles à se taire, pourquoi continue-t-on à valoriser un fils qui se fait remarquer quand on fait honte à une fille qui se démarque ? Les femmes de pouvoir sont les alliées des hommes, celles d'entre nous qui savent le mieux courber les chines et sourire sous la domination. Toutes les bonnes femmes qu'on voit se sentent obligées de jouer un petit décolleté, une paire de boucles d'oreilles, les cheveux bien coiffés, preuve de féminité, gage de docilité. Plus un type manque de qualité virile, plus il est vigilant sur ce que font les femmes. Être complexé, voilà qui est féminin. Effacé, bien écouté, ne pas trop briller intellectuellement, juste assez cultivé pour comprendre ce qu'un belâtre a à raconter. Bavarder est féminin. Parmi les choses qu'on a bien inculquées aux hommes, il y a la peur d'être pédé, l'obligation d'aimer les femmes. Les femmes sont des lascars. Comme les autres, et les hommes des putes et des mères, tous dans la même confusion. Merci à tous pour votre écoute. Pascal vient nous rappeler les grandes heures des Nuits Debout qui lui paraissent si loin et qu'elle avoue même elle-même avoir complètement oublié. J'entends des voix, c'est terminé. D'ici là, podcastez dès maintenant sur radio-g.fr, émission J'entends des voix. L'émission revient dans 15 jours pour écouter d'autres textes choisis pour vous et par nous. La semaine prochaine, c'est Tout compte fait, l'émission de découverte des contes pour tous les âges. La suite à l'écoute de Radio G, toujours sur 101.5 FM.
Radio G, www.radio-g.fr.
Ils se sont inscrits et vous avez voté pour vos chansons préférées.
C'est bientôt le moment de découvrir les vainqueurs de Radiovision 2022.
Écoutez les résultats le samedi 11 juin à 21h sur cette antenne
ou sur radiovision.fr pour la grande soirée Radiovision 2022.
Thank you. Still gonna bring the heat.
Dream. semaines, retrouvez Novorama, l'actualité de la scène indie rock, pop, électro, avec des chroniques de nouveaux albums et une interview d'un groupe en fin d'émission. Retrouvez Novorama tous les vendredis à 18h sur Radio G 101.5.
Sans avoir personne où aller. Je sais pas quoi construire, mais pas d'envie, c'est pas de regret. Voilà le temps de vomir sur cet amas de gueule, en biais à qui je sais plus quoi sourire, à qui je sais plus quoi causer. On en a bien parlé de l'époque et de ces enfants qui savent plus aimer. Mais comme faut bien vider les stocks, la logistique fait des bébés. La niaise voudrait pas virer conne, ça tient un peu de subtilité. Il paraît qu'à trop croire en l'homme, y'en a quelques-unes qui se font baiser. Prends tes carnets puis deviens tout ce que t'as jamais supporté. Écris l'angoisse et le chagrin, personne ne meurt sans se vider. On s'est dit, faut partir de rien et puis se faire tout seul avec du vide plein les mains. Tu l'imagines, ma petite gueule, le sourire paumé en chemin, parce que ça plaît plus à personne quand la gosse se change en chien et que le chien grogne. On en a bien parlé de la foi, celle qu'on met là où on peut, mais quand il y a de la place pour une croix, il y a des chances que ça sonne creux. Ta guitare, ton amour, c'est ta musique. Moi je vous dis que c'est mon désespoir, une vieille fille alcoolique qui demande à me voir tous les soirs, à m'inspecter les tripes. Elle prend ce qu'elle veut et elle se marre à le traîner en public. Chansons où le bout d'espoir se pointe à la fin, qui vous laisse pas sauter du bon sang à un ami coussin.
J'attends Mylène, j'attends Mylène, j'attends Mylène, j'attends Mylène, j'attends Mylène avant midi, mais elle ne viendra pas, pas avant 3h30, car Mylène est comme ça. Elle a des choses à régler dans sa vie bien remplie, et je ne suis pas le premier de ces morceaux choisis. J'aimerais bien m'allonger tous les soirs à ses côtés, mais c'est un peu compliqué, alors je me tais. J'attends Mylène, j'attends Mylène, j'attends Mylène, j'attends Mylène, j'attends Mylène pour lui dire que cette fois c'est fini, que j'en ai marre de savoir qu'elle s'endort avec lui. Elle me dit qu'elle a des enfants et que ça ne se fait pas de les noyer dans la rivière comme des tout petits chats. La famille décomposée, c'est le carnage assuré. Une vie recomposée, est-ce que ça vous dirait? J'attends Mylène à la ferme, elle me rejoint tous les week-ends. Avec une fleur à la main, je l'aperçois qui revient. Pour qu'elle s'endorme avec moi. Mylène et moi, c'est comme ça qu'on s'aime, mais l'amour ne suffit pas. Mylène et moi, c'est comme ça qu'on s'aime. J'attends Mylène, j'attends Mylène, j'attends Mylène à la ferme, elle me rejoint tous les week-ends. L'amour ne suffit pas.
don't feel the dread, but smile in your face. In this my England, it's now commonplace. If I had a pound for those who lied, I would have riches a mountain high. If I shed a tear for things unjust, it would fill a river and the dam would burst. Curse the power to the righteous side.
Words that is spoken.